Il a donc mis sa menace à exécution. Il tient du même coup une promesse de campagne. Les pressions diplomatiques, les discussions avec les Européens n'iront rien changer. Donald Trump a choisi de retirer les États-Unis de l'accord sur le nucléaire iranien. Retrait pur et simple avec retour de toutes les sanctions, c'est l'option la plus dure. Pourquoi ce choix? L'accord de 2015 est-il mort et enterré? Quelles conséquences pour l'Iran et la région dans son ensemble? Avec Nicolas Falaise du service international de RFI, on va poser ces questions et bien d'autres à nos invités dans les 20 prochaines minutes. Laurence Nardon, responsable du programme Amérique du Nord à l'IFRI. Bonjour.
Bonjour.
Et Benjamin Haute-Couverture en ligne avec nous, spécialiste des questions de prolifération nucléaire et de sécurité internationale à la Fondation pour la Recherche Stratégique. Bonjour à vous.
Bonjour.
On appellera aussi Jean-Didier Revoin, notre correspondant à Moscou. La Russie s'est dit profondément déçue par la décision de Donald Trump.
Édition spéciale.
J'annonce aujourd'hui que les États-Unis se retirent de l'accord sur le nucléaire iranien. Dans quelques instants, je vais signer l'ordre présidentiel pour commencer à rétablir les sanctions américaines contre le régime iranien. Au cœur de l'accord iranien, il y avait cette grande fiction selon laquelle un régime meurtrier voulait seulement un programme d'énergie nucléaire pacifique. Aujourd'hui, nous avons la preuve que cette promesse iranienne était un mensonge.
Donald Trump à la Maison-Blanche hier. Laurence Nardon, les États-Unis déchirent donc l'accord nucléaire avec l'Iran. Pourquoi maintenant et pourquoi de façon aussi dure?
Alors pourquoi maintenant? Je pense que c'est lié au fait que la recertification que Trump devait apporter au Congrès, c'est une loi américaine qui a été adoptée après l'accord avec l'Iran, devait intervenir le 12 mai et que donc le timing a fait qu'il le dit maintenant. Sur le fond, je pense que de manière plus importante, on voit que Trump ne se modère pas du tout dans cette deuxième année de mandat. On avait pu espérer, comme il s'est brouillé avec Bannon, son conseiller extrêmement radical et extrêmement nationaliste, on avait pu espérer au mois de janvier que il allait devenir plus sage, et en fait au contraire il a l'air de se raidir sur la plupart des sujets. J'ajoute une dernière chose, c'est que il aime bien manifestement tenir les alliés, les autres acteurs de la scène internationale à son bon vouloir. Il nous a fait attendre comme ça sur le traité sur le climat avant de donner sa décision. Oui. On a l'impression qu'il fait un peu pareil sur le deal avec l'Iran.
Il est le maître de l'horloge, il est le maître de la situation, c'est lui qui décide et puis c'est tout.
Oui, il y a un côté très narcissique du personnage qu'on a vu sur beaucoup de sujets et qu'on voit à nouveau sur l'Iran.
Et il y a la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni qui ont tenté de le convaincre ces dernières semaines. On se souvient de la visite à Washington d'Emmanuel Macron, une proximité affichée, mais un désaccord sur ce dossier. Et finalement, il n'a pas fléchi. Il est resté sur la position qui était la sienne.
Oui, mais je pense tout simplement, et malheureusement pour nous, que les propos et l'influence de ces deux autres alliés que sont Israël et l'Arabie Saoudite ont été plus forts que tout ce qu'ont pu lui dire les Européens et les autres, et même les gens de sa propre administration. Oui. Parce qu'en fait, à Washington aussi, beaucoup des responsables sont contre la décision qui vient d'être prise. Pas tous, parce qu'il y a Bolton, qui est son nouveau conseiller pour les affaires, pour la sécurité nationale, ouais, et qui est un véritable nationaliste qui était déjà pour la guerre en Irak en 2002-2003, il y a très longtemps, et qui n'a pas du tout tiré les conséquences que beaucoup de gens ont tirées de l'aventure irakienne, puisque John Bolton, donc, depuis 2007, milite, il écrit des éditos dans le New York Times tous les ans, tous les six mois, pour défendre l'idée d'une intervention préventive, enfin d'une frappe préventive contre l'Iran. Et ce monsieur, qui est donc quand même un va-t-en-guerre un petit peu dangereux, est aujourd'hui, depuis quelques semaines, le conseiller pour les affaires de sécurité nationale du président Trump. Et donc lui aussi a dû pousser à la roue.
Benjamin Haute-Couverture, vous êtes en ligne avec nous. L'accord mis en place pour empêcher l'Iran de se doter de la bombe atomique avait été conclu en 2015. Est-ce que ce retrait américain signe aujourd'hui son arrêt de mort?
Non, pas tout à fait. Ce sera un petit peu plus compliqué que ça. D'abord, c'est un accord qui a mis plusieurs années à être conclu entre 8 parties. Il y a effectivement les États-Unis. Rappelons également qu'il y a la Chine, extrêmement discrète hein, depuis quelques jours, depuis quelques semaines. La Russie, qui a juste fait valoir sa déception hier soir. En Europe, il y a la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne. Et rappelons que l'Union européenne est également partie de cet accord. Oui. Et supervise cet accord depuis le début. Et depuis sa conclusion le 14 juillet 2015. Donc il y a 8 parties. Et l'Iran, naturellement. Donc ce n'est pas parce que un des signataires de cet accord en sort que l'accord est ipso facto caduque. La question qui va se poser, c'est de savoir dans quelle mesure les autres parties restent dans l'accord. La question se pose essentiellement pour les Iraniens, dans la mesure où les Européens, de leur côté, ont déjà annoncé et fait valoir fortement, y compris les Français, qu'ils resteront dans l'accord. Et Federica Mogherini, la chef de la diplomatie européenne, l'a rappelé hier en première intention. Donc la question très vite qui va se poser, ça va être une question de guerre commerciale ou non guerre commerciale entre les États-Unis et une partie du reste du monde, s'agissant des transactions commerciales et en particulier énergétiques avec l'Iran. On en rentrera peut-être un peu plus dans le détail de ça, mais ça va bientôt vite devenir l'enjeu principal de cette affaire. Mais non, l'accord n'est pas mort du tout pour le moment.
Voilà, l'accord n'est pas mort et ça dépend pour une part de l'Iran, comme vous le disiez. On voit ça avec Nicolas Falaise. Nicolas, le président iranien Hassan Rouhani a réagi. Hier, il accuse Donald Trump de pratiquer une guerre psychologique. Et pour ce qui concerne l'accord, il dit vouloir continuer à le respecter.
Oui, et même si les États-Unis ne respectent jamais leurs engagements, hein, selon les mots de Hassan Rouhani, il a annoncé une courte période de discussion avec les autres pays donc qui ont négocié l'accord avec Téhéran en 2015, France, Grande-Bretagne, Allemagne, Russie et Chine. Si au bout de cette courte période, nous concluons que nous pouvons pleinement bénéficier de l'accord avec la coopération de tous les pays, l'accord restera en vigueur, a dit Hassan Rouhani, dont on peut rappeler qu'il est l'un des architectes de l'accord de 2015. Il a aussi évoqué l'autre scénario, le président iranien, en cas d'échec des discussions qu'il a annoncé. Si nécessaire, nous reprendrons nos activités d'enrichissement nucléaire à un niveau industriel, sans aucune limite, a-t-il dit. Alors, on peut rappeler que cette question de l'enrichissement d'uranium est au cœur du dossier, puisque c'est sa limitation et sa surveillance qui permettent de dire que l'Iran développe un programme civil et non militaire. Alors, ces propos de Hassan Rouhani, le président iranien, il pose plusieurs questions. La nature et l'objectif de la discussion qu'il annonce, qui va s'ouvrir avec ses 5 interlocuteurs, s'agira-t-il de négocier un nouvel accord ou un accord plus large qui inclurait les questions régionales, Syrie, Yémen et la question du programme balistique de l'Iran? Et puis la question est celle de l'attitude du guide suprême, puisque c'est lui le principal dirigeant en Iran et qui devra composer ou en tout cas entendre les différentes factions au sein de la République islamique, dont certaines sont opposées à l'accord depuis le début.
Oui, il y a une question d'équilibre politique interne au régime. Hassan Rouhani veut rester dans l'accord. C'est pas forcément l'avis de tous les Iraniens. Écoutez le point de vue de cette femme au foyer, habitante de Téhéran. Elle est au micro de Siavosh Ghazi.
Monsieur Trump ne doit pas sortir de l'accord nucléaire. Lorsqu'on fait une promesse, il faut s'y tenir et appliquer ses promesses. Mais puisqu'il sort, l'Iran doit le faire aussi. La situation du pays va empirer avec l'inflation. Tout va être sans dessus-dessous.
Édition spéciale sur RFI.
Benjamin Haute-Couverture, je reviens vers vous. Je rappelle que vous êtes spécialiste des questions de prolifération nucléaire. On a entendu Donald Trump dire avoir la preuve définitive du mensonge de l'Iran sur son programme nucléaire. De quelle preuve nous parle-t-il ?
Aucune.
Il n'en a pas une seule.
Il n'a absolument aucune preuve. La seule chose qu'il a dite et qui est une manière d'extrapoler un petit peu, c'est de se fonder sur les découvertes, disons, du Mossad il y a quelques semaines, présentées en fanfare par le Premier ministre israélien il y a quelques jours, s'agissant du projet Hamad, a monté effectivement et qu'a mis en œuvre l'Iran jusqu'en 2003 et jusqu'à la fin de l'année 2003. Et ce qu'on a appris, en réalité qu'on n'a pas véritablement appris si vous voulez, c'est que l'Iran avait en partie menti sur les menées passées dans le cadre de son programme nucléaire. Et par conséquent, ces preuves entre guillemets ont été réutilisées par le président américain dans son discours, pour dire qu'ils ont définitivement des preuves de mensonge. Or, ce qu'a fait l'Iran avant 2003, évidemment, n'a strictement rien à voir à ce que fait l'Iran depuis, je dirais, juillet 2015 et surtout depuis janvier 2016, date de la mise en œuvre de l'accord du 14 juillet 2015, dans la mesure où cela est certifié tous les trois mois par les inspecteurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique, qui continue de dire depuis cette date que l'accord est dûment respecté.
Pour donc reste, vous nous dites...
S'il y avait, je finis juste là-dessus.
Bien
s'il
sûr.
Y avait des activités, en particulier de retraitement du plutonium qui sont totalement arrêtées ou d'enrichissement de l'uranium supérieur à plus de 3% dans les installations clandestines, ce serait dit de manière... tonitruante, si vous voulez. Or, ce n'est évidemment pas dit, ni par les Israéliens il y a 10 jours, ni par les États-Unis hier, qui procèdent par une espèce d'analogie un petit peu vaseuse, mais il n'y a aucune preuve nouvelle apportée sur la conduite d'un programme militaire nucléaire depuis 2015.
Benjamin Haute-Couverture, vous nous dites que le président américain fonde sa décision sur une preuve correspondant au passé et n'ayant donc rien à voir avec l'accord en question qu'il dénonce.
Je ne dis pas qu'il fonde sa décision sur une preuve appartenant au passé. Je dis qu'il utilise de manière opportune un exercice de communication politique mené par le Premier ministre israélien il y a 10 jours et reprise quelques jours plus tard par le nouveau secrétaire d'État américain Mike Pompeo pour étayer sa thèse selon laquelle l'accord est mauvais. Mais il ne se fonde pas là-dessus, si vous voulez. En réalité, il est fondé,
ça n'est pas le point clé,
en âme et conscience, depuis qu'il est candidat, depuis qu'il est président. Rien n'a véritablement changé. Il cherche à étayer un petit peu son argumentaire.
Laurence Nardon, quel est l'objectif de Donald Trump dans ce dossier, au final?
C'est toujours difficile de le savoir parce que outre défaire ce qu'a fait Obama, ce qu'on voit
ce
le
qui
président.
C'est une obsession visiblement.
Oui. Alors on se demande ce qu'il va faire après. Peut-être ressusciter Ben Laden s'il peut, mais bon. Il y a autre chose qui est, je crois, d'un ressort très psychologique qui est, comme je l'ai dit tout à l'heure, affirmer son pouvoir sur la scène internationale de manière un petit peu narcissique. Et puis, sur les politiques régionales, je pense que Trump se méfie beaucoup de l'Iran parce qu'il écoute ce que lui disent les Saoudiens et les Israéliens. Mais là, c'est ce qui est vraiment troublant, c'est qu'il y a une contradiction dans les objectifs de politique étrangère de Trump et de ça depuis sa campagne, parce qu'en fait, on se souvient qu'il avait pointé un ennemi pendant sa campagne qui était Daesh, c'est-à-dire ISIS comme il le dit en anglais, c'est-à-dire
l'État islamique
qui a quand même frappé plusieurs fois le territoire américain avec des morts, etc. Donc il avait pointé ce danger-là. Et puis, dans son discours contre le terrorisme, il parle énormément du Hezbollah, donc le Hezbollah chiite financé par l'Iran. Donc il remonte à l'Iran en attaquant le terrorisme. Mais évidemment, ce qui est très étrange vu de l'extérieur, c'est qu'il se trompe de cible, puisque le terrorisme qui frappe aujourd'hui l'Occident, c'est un terrorisme sunnite qui est peut-être encouragé, financé indirectement, plutôt par les monarchies du Golfe. Donc là, il y a quelque chose de contradictoire et qui semble très étonnant.
Et on l'a entendu hier présenter le régime de Téhéran comme ce sont ses mots, principal parrain du terrorisme dans le monde.
Oui, et il avait déjà dit ça lors de sa visite officielle en Arabie Saoudite l'année dernière, pointant la menace du terrorisme, etc., chez les Saoudiens, enfin un discours officiel, en parlant de l'Iran, alors que l'éléphant dans la pièce, c'est que le terrorisme aujourd'hui, il est plutôt, c'est plutôt à l'Arabie Saoudite qu'il faudrait s'en prendre si on doit s'en prendre à quelqu'un. L'autre inquiétude qu'on peut avoir, l'autre aspect un peu contradictoire, c'est que il veut sortir de cet accord qui cadrait quand même les activités nucléaires iraniennes, même si l'accord était peut-être pas parfait, au moment où il veut obtenir de la Corée du Nord des concessions sur leur propre progression nucléaire, et on se demande comment les deux efforts vont s'articuler si Kim Jong-un ne va pas renoncer à toute avancée qu'il avait pu annoncer.
Oui, effectivement, il y a un équilibre, quelque chose, une logique qui est peut-être difficile à capter au premier abord, Laurence Nardon. Cette décision de Donald Trump a entraîné évidemment une cascade de réactions. Il y a ceux qui applaudissent, Israël, l'Arabie Saoudite, ceux qui regrettent, la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni qui ont publié un communiqué commun, et Moscou qui fait part de sa profonde déception. Jean-Didier Revoy, on vous retrouve à Moscou, bonjour.
Bonjour.
Du côté russe, on se dit extrêmement inquiet.
Bien oui, effectivement, hein, on est inquiet de voir Washington agir contre l'avis de la plupart des États qui poursuivent, Washington poursuivre son intérêt étroit et opportuniste. Pour Moscou, c'est une nouvelle preuve de l'incapacité de Washington à négocier. Pour le ministère des Affaires étrangères, dans un communiqué, il a dit que les griefs américains ne servaient en fait qu'à régler des comptes politiques avec l'Iran, car l'accord sur le nucléaire iranien, a prouvé son efficacité, comme le confirme régulièrement l'Agence internationale pour l'énergie atomique, qui est chargée de surveiller la mise en place de l'accord conclu entre le groupe des G5+1 et l'Iran. Et pour Moscou encore, ce que Moscou déplore, c'est le coup porté au régime de non-prolifération par cette décision. Le représentant du président russe auprès des organisations internationales à Vienne, Mikhail Ulyanov, eh bien, ne s'explique pas cette décision par rapport au succès de l'accord sur le nucléaire iranien et considère que les menaces de sanctions extraterritoriales américaines sont scandaleuses.
Merci Jean-Didier Revoin à Moscou pour RFI. Benjamin Haute-Couverture, on le disait tout à l'heure, l'accord sur le nucléaire n'est pas forcément mort, mais il va y avoir tout de même le rétablissement des sanctions. Et ça ouvre, vous nous le disiez, une période d'incertitude, une période de guerre commerciale peut-être.
Oui, alors je vais peut-être juste d'abord revenir très rapidement sur la question précédente pour laquelle je crois qu'il est important effectivement d'insister sur une clé de lecture nord-coréenne de cette décision, parce que on sait depuis...
la concomitance des faits, hein, sur la concomitance des faits entre l'annonce du retrait américain de cet accord nucléaire et le fait que y a un rapprochement qui s'opère avec Pyongyang, avec notamment Mike Pompeo qui est sur place aujourd'hui.
Alors, en réalité, rapprochement, on ne le sait pas encore. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que depuis quelques mois, il va sans doute y avoir effectivement un sommet américano-nord-coréen au plus haut niveau. Et le fait que ce soit au plus haut niveau est inédit dans l'histoire. En revanche, ce que l'on sait aussi, c'est que cette proposition de sommet vient du leader nord-coréen et que pour le moment, c'est lui qui officie. C'est lui qui donne le sentiment de régler l'ordre du jour. Or, Donald Trump, en faisant preuve formellement, disons, de la plus grande fermeté à l'égard de l'Iran, indique aux nord-coréens qu'il ne se fera pas avoir, parce que, naturellement, depuis plusieurs mois, on parle d'un piège tendu par Kim Jong-un, dans la mesure où on peut mettre très fortement en doute sa volonté réelle de dénucléariser sa politique de sécurité, alors qu'il a enfin atteint le statut d'État nucléaire, aussi sommaire soit-il, depuis septembre dernier. Donc c'est un message adressé à l'évidence aux Nord-Coréens, consistant à dire, dans le début des négociations qui va commencer, les États-Unis vont faire preuve d'une extrême fermeté sur l'objectif final de dénucléarisation totale de la péninsule. Or, on ne voit pas là de possibilité de compromis entre les deux leaders. Donc c'est une manière sans doute d'annoncer, selon moi, que ce sommet va à l'échec. Mais en tout cas, pour peut-être Donald Trump et autour de lui, John Bolton, Mike Pompeo, les ultra-conservateurs, les néo-conservateurs et les faucons, c'est une manière de dire qu'il faut montrer ses muscles avant le début d'une négociation pour pouvoir dire que ce sera une bonne chose. Ensuite, deuxième question.
Alors, extrêmement vite, puisque là, il ne nous reste plus que 30 secondes, Benjamin, Haute-Couverture.
Alors, très vite.
La guerre commerciale.
Il faut savoir que le mémorandum présidentiel sur la sécurité nationale qui a été signé par le président hier soir indique que les sanctions vont être réimposées au plus tard dans 180 jours, après une période dite de wind down, et au mieux dans 90 jours. Donc, toutes les sanctions qui sont levées à ce jour devront être réimposées au 4 novembre prochain, et en particulier, dans ce cadre, c'est les transactions pétrolières et l'ensemble du secteur énergétique, et certaines devront l'être à partir du 6 août prochain. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer une période de négociation intense pour savoir si la possibilité d'un grand bargain est possible d'ici le 6 août.
Merci Benjamin Haute-Couverture. Désolé, on reprend cette édition spéciale à 8h10.